Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Avril 1994, avril 2024. 30 ans. 30 ans à essayer de mettre des mots sur le génocide au Rwanda, sur la mort de plus d'un million de personnes, sur des violences fratricides. Mais comment dire l'impensable ? Le choc, la perte, la colère, le deuil de toute une famille massacrée, d'un pays traumatisé. Autant de questions que se pose notre invité aujourd'hui, un homme qui travaille sur la parole précisément. Acteur, metteur en scène, écrivain, dramaturge, il sait que la première chose qu'on perd en temps de guerre, c'est la langue. Une langue qu'il faut reconquérir. Comme en témoigne une pièce qu'il propose prochainement sous le titre de « Zo » ou « L'assassin philanthrope » d'après Vercors, et en parallèle un texte plus intime intitulé « Ewa Rwanda, lettres aux absents » paru aux éditions Lattès. Bonjour Dorcy Rugamba.
Bonjour.
Vous aviez 24 ans le 7 avril 1994 lorsque votre famille a disparu. Sous les armes meurtrières des soldats, vous auriez dû être avec eux, mais la veille de votre départ de Boutaré pour les rejoindre, votre père vous a déconseillé de voyager. Ce père poète qui, 12 ans auparavant, avait écrit un texte prémonitoire, « Ce monde mal en point ». C'est sa lucidité qui vous a sauvé dans ces Rugamba.
Sa lucidité, son... mais le hasard aussi. Je ne pense pas qu'il pouvait imaginer que le lendemain, un génocide se mettrait en place. Mais il avait la conscience que le pays était dangereux. Nous étions dans la quatrième année de guerre civile. Et voyager la nuit représentait quand même un danger. Et j'ai réalisé beaucoup plus tard que finalement, il m'a sauvé la vie.
Est-ce que votre nom de famille, Rugamba, qui signifie « guerre », si j'ai bien compris, est facile à porter avec tout ce symbolisme?
Alors la guerre est un des thèmes culturels qu'on trouve au Rwanda, mais dans le sens du courage qui est lié au côté martial, pas nécessairement dans le sens de la violence. Mais ce nom, en fait, a une double racine. Je m'en suis rendu compte après aussi dans la réflexion que j'ai eue avec mon père. Il veut aussi dire Rugamba en partant d'une racine de la langue rwandaise ancienne qui veut dire celui qui porte la parole. Et donc, c'est un nom qui porte une double signification. Et Rugamba lui-même, mon père, lui avait donné un autre sens en disant « bon voilà, c'est une guerre de la paix ». Et je l'appelle un guerrier de la paix.
Et vous portez tout ça en vous, évidemment, Dorcy Rugamba. À la fois cette guerre que vous n'avez pas choisie et qui vous a percuté, mais à la fois cette paix qui est arrivée, et puis cette parole que vous transmettez par le théâtre et par l'écriture. En 1994, vous étiez donc à Boutaré, non à Kigali. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez compris que les vôtres étaient mort, vous avez pu trouver la force de fuir le Rwanda ?
Pas tout de suite. Immédiatement, ça a été un choc. Quand je l'ai appris, c'est les premiers morts dont je prenais connaissance. J'étais chez ma tante, la sœur de mon père à Boutaré. Et j'ai été frappé de sidération. Je pense que la nouvelle était beaucoup trop grosse pour que je l'encaisse. Donc il y a une forme de paralysie. Je me rappelle que j'ai vu ma tante commencer, il y avait une grande armoire avec de la vaisselle dans le salon, donc elle a eu une réaction qui m'a paru violente, je crois que je la regardais un peu comme ça, elle a commencé à casser vraiment beaucoup de vaisselle. Et en la regardant, j'étais presque comme dans une situation de spectateur. Et cette situation a duré beaucoup longtemps après. On est parti très vite, parce que quelqu'un est arrivé depuis Kigali en disant « moi, je tente quand même la traversée ». C'était une situation de confusion. Le génocide n'avait pas encore commencé dans la ville de Boutaré, où il commencera 2 semaines beaucoup plus tard. Et Beaucoup de gens ont pensé que Boutaria ne sera pas atteint. Donc il y a même beaucoup de gens qui se sont réfugiés à Boutaria, qui ont trouvé la mort là-bas. Et quand nous sommes partis le 12, c'était aussi dans cette incertitude-là. Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on part? Et puis ça s'est décidé très vite. Mais c'est difficile de savoir, de relier, de retracer le sentiment exact ou l'urgence. J'ai eu l'impression que je perdais pied par rapport à une situation qui arrivait comme ça, comme vraiment un ciel qui vous tombe sur la tête, beaucoup trop lourd. Et là, l'impression réelle est venue longtemps après.
Un instinct de survie, peut-être ?
Un instinct de survie, certainement.
Et puis une vision du monde, peut-être aussi transmise par votre père, justement, dont on va parler un peu plus longtemps dans un instant, qui, comme on l'a dit, avait une vision du pays et de la situation sans doute très nette, qui vous a peut-être transmise. Et puis aussi parce que c'était un poète, un homme de lettres, et que vous aussi, vous aviez déjà fondé un ballet-théâtre à Boutaria avant le génocide. Après, vous auriez pu avoir envie d'arrêter toute pratique artistique, ça aurait pu se comprendre. Qu'est-ce qui fait que l'envie d'écrire, de créer, de jouer est restée en vous et est revenue après ?
Tout de suite après, j'ai eu le choix, soit de continuer à faire ce que mes études me destinaient, c'est-à-dire d'être pharmacien. Mais je dois avouer que je n'aimais pas vraiment ça du tout.
C'était où exactement ?
Donc j'avais commencé au Rwanda, j'étais déjà presque en train de les finir, mes études, j'étais en deuxième licence. Je suis parti au Burundi, puis en France, et je rejoins la Belgique justement pour pouvoir poursuivre ces études. Et à la réflexion, c'est vraiment pas du tout de ça dont j'avais envie. Et le théâtre est arrivé presque comme un recours. Après, en analysant, je me suis rendu compte que j'avais besoin de garder une fraîcheur en moi, de faire un métier qui me permettait de ne pas m'assécher et puis de faire quelque chose par rapport à ça. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi sur le génocide. Ça me permettait à la fois de mettre des mots dessus. Mettre des mots dessus, ça suppose de transcender par le savoir, de savoir qu'est-ce qui est arrivé. Mais aussi, j'avais besoin d'être sur scène, dans un rôle actif, que quelque chose me passe par le corps et que je ne sois pas coincé dans un recoin quelque part, en train de cogiter, d'essayer de me morfondre. Et le théâtre, alors vraiment, je remercie les milieux du théâtre qui sont devenus ma maison ces dernières 30 années.
Alors voilà, j'avais envie avec vous, Dorcy Rugamba, de faire un peu ce retour en arrière, de voir d'où vous veniez, ce qui avait pu vous constituer, tout ce qui fait que vous êtes l'artiste que vous êtes aujourd'hui, l'auteur d'une dizaine de pièces, donc depuis Rwanda 94, écrite en 1999, dans laquelle des pièces dans lesquelles vous avez été acteur, mais vous avez aussi joué d'autres dramaturges. Et ici, avec Ewa Rwanda, il me semble que c'est la première fois que vous publiez un récit à ce point intime qui paraît donc 30 ans après. Je me demandais pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous aviez en effet besoin d'un temps long pour l'écrire, c'est-à-dire prendre de la distance, ou c'est parce que l'écriture butait sur trop de colère, trop de haine, ce qui n'est pas du tout le propos ici, et on va le dire dans un instant.
D'abord parce qu'il a fallu trouver les mots que je comprenne moi-même, dans quels mots je souhaitais parler de ma famille. Que je réalise ce qui nous est arrivé, qui va au-delà de la mort. Et on a besoin de temps et de perspective. Ce qu'on réalise juste sur le moment n'est pas la même chose qu'on réalise 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, je réalise par exemple que mes frères et sœurs, qui étaient nombreux, nous serions beaucoup plus nombreux comme famille, qu'ils auraient prospéré, qu'ils auraient des enfants. Et donc ce manque-là, il faut pouvoir en prendre, en faire le constat aussi. Et trouver les mots, c'est aussi réaliser qu'un crime idéologique comme celui-ci s'attache d'abord aux mots. Qu'il y a la violence du verbe qui précède la violence des coups. Et on est obligé de choisir chaque mot presque comme si on se déplaçait dans un champ miné et qu'il faut se l'allumer. Questionner chaque mot. Presque, pas uniquement son étymologie, voire même son historicité. Dans quel contexte il a pu être utilisé? Donc ce temps était nécessaire de trouver le sens du livre aussi. Je considère ce livre comme un rituel. Non seulement comme un rituel, mais comme un linceul aussi. C'est un livre dans lequel j'ai voulu envelopper les miens en cherchant les mots pour que ce soit le plus beau possible, parce que c'est seulement comme ça qu'ils vont venir à la connaissance des vivants. 30 ans après, il y a de plus en plus de gens qui ne les ont pas connus. On est en face de beaucoup moins de témoins. Et donc il y a beaucoup de Rwandais, de la jeune génération, dont mes enfants, qui, à travers le livre, est le seul canal, le seul moyen qu'ils puissent se faire une idée de qui étaient les personnes. Et donc j'ai pris le temps vraiment de comprendre ce que c'est, même comme geste. J'aime à dire que je ne suis pas, même en étant écrivain, je ne souhaite pas être le griot des tueurs. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de raconter par le menu les crimes et la violence commise contre des personnes que j'aimais beaucoup, mais c'est combattre l'anéantissement. Et ce qui est en jeu, c'est moins la vie que l'existence même. Que ces personnes qui ont existé, qui avaient une vie, qui avaient des projets, des ambitions, qui avaient une culture, une éducation que j'ai reçue, je puisse vraiment prendre le temps de restituer tout ça. Et c'est un travail beaucoup plus long.
Avec à la clé aussi peut-être une mission, en tout cas, c'est ce que je peux comprendre dans ces quelques lignes que vous écrivez. Nous sommes page 20 d'Orsi Orugamba. Il appartient aux survivants qui les ont côtoyés dans l'intimité de les porter à la lumière et à la connaissance du monde. Un peu plus loin, c'est une tâche de survie. Fermez les guillemets. Donc c'est ce que je disais, en effet, ici il n'est pas question de noirceur, mais bien de lumière. C'est ramener ces personnes à la lumière, donner leur nom, rappeler des sentiments, rappeler des conversations que vous avez eues ensemble.
Absolument. Ça prend du temps, hein, parce que le choc juste après, évidemment, l'acte meurtrier est tellement violent, il s'impose à l'esprit. Donc on passe beaucoup de temps à cogiter là-dessus. Mais il faut que cette vapeur-là s'éclaircisse et puis qu'on re-regarde réellement les disparus, que les souvenirs remontent. Je constate même que 30 ans plus tard, les souvenirs sont beaucoup plus fidèles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques années, ce qui est assez drôle. Et je racontais que j'ai reçu une photo, par exemple, où je voyais ma petite sœur avec mes parents, qui est revenue 20 ans après. Et elle est là avec son sourire éclatant. Je me suis dit, elle est venue elle-même me rappeler que c'est comme ça qu'il faut que je me souvienne d'elle, comme un être vivant qui a de la joie. Et cette joie, c'est vraiment ça que j'ai voulu confiner dans quelques mots. Et c'est le chantier auquel je me suis astreint.
Vous parlez de Ginny ?
De Ginny.
Et parlant de photos, il y a évidemment sur la couverture du livre « Rwanda », cette magnifique photo en couleur où vous êtes tous ensemble, souriant. Alors c'est un tombeau poétique au sens littéraire du terme que vous nous proposez ici. Alors si vous voulez bien, Orsi Orugamba, je vais vous demander, puisque vous rendez hommage aussi à votre papa, de lire peut-être cet extrait, ce poème plus exactement, que vous retranscrivez ici dans les deux langues, à la fois en langue française et en Kinyarwanda. On serait très heureux de vous entendre.
Nous sommes arrivés dans une impasse. L'homme d'aujourd'hui s'érige et se lance. Il croit son soleil plus ardent, plus rayonnant que celui de son père. Le soir venu, son soleil s'éteint. Nous ressemblons à une génisse qui voit une prairie pour la première fois. Elle croit découvrir cette vallée alors qu'elle foule une herbe rase un vieux pâturage pelé par ses aînés. Aucun voyage ne mène ailleurs. Ce n'est qu'une route infinie, pas plus étendue que les pas d'un seul homme, s'il lui est donné de parcourir. Nous sommes comme des poissons d'eau douce qui disent aux leurs de nager jusqu'aux confins de l'eau pour explorer les contours de la mer, alors qu'ils tournent sur leurs pas, comme assignés à se tourner dans le tourbillon d'un étang. Zirabaye sinziherezo uwarera urati ndagiye agira ngo izuba rye niryo ryinshi rirusha irya se kwaka inzora bwagoro birye rikarenga dusa niyahutse iroyo urwuri igira ngo ibimbu yo mubande naho ubwo numukura w'izindi zikuru zayo zanogereje nta rugendo rugera hirya n'umuhanda gihogera utarusha intera intambwe z'umwe niba hawe kurambura turasa n'ifi zo mu kizenga zigira izazo ziti muzoge muri iherezo ry'iyi nyanja naho zirirukaho zivuye boshye izarozwe iyo muzunga
Merci beaucoup, Dansé Rugamba, pour ce poème écrit par Cyprien Rugamba, votre père. Ou peut-être dois-je l'appeler Roimo ?
Les deux sont possibles.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Dansé Rugamba, qui publie Ewa Rwanda, sous-titré « Lettres aux absents » aux éditions Jean-Claude Lattès. On l'a dit en première partie, c'est un texte qui remet en lumière celles et ceux qui ont disparu dans le génocide, et en particulier ici votre mère et votre père, mais qui souligne aussi la difficulté de mettre des mots sur l'inimaginable, ce que les survivants de la Shoah avaient déjà exprimé. Pourtant, vous dites aussi, et je vous cite, « Notre culture du non-dit nous condamnait, toi et moi, à un langage de sourds. Les Rwandais sont un peuple qui pousse la discrétion jusqu'à la dissimulation. » Est-ce qu'en effet, il y a dans la culture rwandaise un réflexe à enfouir ce qui dérange peut-être ?
Il y a des contextes, hein. Il y a des contextes, et je me suis rendu compte que les contextes de l'époque ne permettaient pas à cette parole d'exister. Mais aussi, je crois que dans la culture rwandaise, c'est une culture de la discrétion. Les Rwandais parlent doucement. Bah, il y a... Ça fait partie d'un des canons de la culture rwandaise qui fait que quand on a une joie, on n'exulte pas d'une manière qui peut être démonstrative. Et parfois aussi, quand on a de la peine, on n'essaie pas d'écraser les autres avec sa souffrance. Donc la culture nous a vraiment éduqués à garder une forme de discrétion, mais qui est vue comme une décence. Pourquoi ? Parce que l'intimité est réservée à un cercle extrêmement restreint. Et ça a pu nous jouer des tours aussi. Après, un crime aussi atroce, où les gens avaient besoin de parler, et que culturellement, nous ne sommes pas rodés à l'idée immédiatement d'ouvrir sur ses propres blessures et de les mettre sur la place publique. C'est les deux. Les contextes l'expliquaient, mais la culture elle-même, vraiment la culture du Rwanda, est une culture de la sobriété.
Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais il se trouve aussi que dans ce texte, dans Sirugamba, cette discrétion dont vous parlez va si loin que, par exemple, vous découvrez un secret de famille concernant votre mère qui a préféré taire une humiliation. Pourquoi ? Pour continuer d'avancer ou pour ne pas mettre sa peine sur les autres ?
Non, je considère que c'est sa force en réalité. Je cite cette parole de Maya Angelou. On ne peut pas choisir tout ce qui vous arrive, mais on peut décider de ne pas être défini par ça.
Lettre à ma fille que je n'ai pas eue.
Lettre à ma fille que je n'ai pas eue. Et cette leçon, je l'ai reçue de ma mère parce que après, on s'est rendu compte qu'on avait aussi besoin de cette leçon-là. Je ne nie pas ce qui nous est arrivé, mais je fais tout pour que ce ne soit pas ça qui me définisse. Parce qu'il y a la vie d'après, dans la construction de soi, dans l'après, une parole comme ça est extrêmement importante. Parce qu'il y a une autre réalité qui vient, la vie reprend le dessus. J'ai une autre famille qui est venue par après. Et il faut que je trouve en moi exister au-delà de cet événement pour proposer à mes propres enfants, à ma famille, une autre identité. De trouver une forme de régénération. Et je crois que chez ma mère, c'est cette force qui l'a constituée, qui a fait qu'elle a très vite pu se reconstruire et garder une forme de fraîcheur que j'ai pu apprécier chez elle. Je crois que si elle n'était pas comme ça, nous n'aurions pas grandi avec une telle joie de vivre. Et je me rappelle toujours d'elle, vraiment, comme je l'écris, comme d'une force juvénile indomptable.
Mais ça, c'est la version lumineuse de l'histoire.
Bien sûr, mais aucune vie ne suit un tracé linéaire. Nous sommes tous obligés de parcourir des moments qui sont faits de lumière et d'ombre. Libre à chacun, et puis à chacun de trouver la force de se coucher sur le versant le plus ensoleillé de son être.
Mais ce qui veut dire quand même en creux que les mots peuvent être dangereux. Vous le pensez aussi dans Sirugamba ?
Ils sont dangereux. Bien sûr, cette violence-là commence d'abord par les mots. Énormément. Quand on écrit, on prend toute la mesure justement de la violence que peut être une violence verbale. Et les mots peuvent être dangereux. Je crois que c'est peut-être ça qui est à l'intérieur même de la culture rwandaise, c'est que cette manière de prendre du temps, de réfléchir à la parole qu'on va mettre sur la place publique, c'est parce qu'on sait qu'une parole, une fois qu'elle est partie, on ne pourra plus la retenir.
Mais nous voilà donc au cœur du paradoxe. Comment avancer sans les mots, ou alors créer une langue nouvelle, puisqu'on a besoin quand même des mots pour exprimer la souffrance?
C'est précisément à ça que sert la littérature, je pense. Justement, la littérature impose un rythme de prendre de la distance, de choisir les mots. C'est pas une parole, elle est différente d'une parole qu'on peut prendre en public spontanément. Et ce choix d'une parole qui va rester, c'est ça aussi, parce que quand on sort un livre, on s'adresse à peut-être à d'autres gens qui ne sont même pas encore nés. On se positionne dans un tir qui va beaucoup plus loin. D'où l'exercice, la difficulté. Il peut être difficile, mais il peut être aussi édifiant. Dans une vie, je pense que l'acte même d'écrire après une violence comme celle-là est en lui-même, comme exercice, une réparation et un travail de deuil.
Le Rwanda que vous n'avez jamais quitté dans Sirugamba, parce que 2 ans après 1994, vous y êtes retourné très vite. Pour vous, c'est inconcevable de ne pas être dans ce pays natal dont l'histoire pourtant vous a pris toute votre famille ?
Oui, parce que j'ai grandi là. Le génocide est arrivé quand j'avais 24 ans. Donc, j'étais déjà un adulte. Une partie essentielle de ma vie s'est passée dans mon pays. C'est un pays que je ne peux pas quitter, qui représente ma spiritualité, ma langue. Même quand je vis à l'extérieur, je l'emporte avec moi. Et j'ai eu besoin vraiment d'y retourner, de créer cette cordon ombilical, même si je vis à Bruxelles, mais j'ai presque un pied à Bruxelles, j'ai un pied au Rwanda. De participer aussi à sa reconstruction, avec mes maigres moyens, mais je pense que les artistes aussi, ceux qui travaillent en tout cas sur les représentations, ont leur rôle à jouer. D'autant plus que nous travaillons sur les récits. Comment est-ce qu'on va se raconter à partir de là, à partir de ce qui nous est arrivé? Et c'est encore une fois un travail sur lequel nous devons nous atteler ensemble, en commun. Et j'ai 54 ans aujourd'hui. C'est beaucoup plus important pour moi le travail de transmission. Il m'importe beaucoup plus que ma propre production pour l'instant, parce que je vois le pays qui commence à faire ce pas et j'accompagne ces jeunes parce que ça me paraît une manière de vaincre presque le crime, de trouver une continuité, qu'il n'y ait pas une césure.
Est-ce que vous avez pu écrire tout ce que vous vouliez dans Ewa Rwanda, dans Sirugamba, où il y a encore des murs que les mots ne peuvent pas franchir?
Non, on ne peut pas tout écrire. Je pense que je ne suis pas au bout de ce chantier d'écriture, que j'y reviendrai. Là, je me suis adressé à mes parents. J'ai repris un dialogue interrompu par la mort que j'avais entamé avec ma mère, qui me paraissait absolument important. Et j'ai été tellement affecté qu'elle parte sans qu'on ait eu cette explication. Et je profite justement de la littérature pour lui parler par-delà la mort. Et c'était très important. C'était important que je parle à mon père. Mais j'envisage vraiment ce travail d'écriture comme un rituel, voire un culte des ancêtres. Et il n'est pas interdit que demain, après-demain, je m'adresserai à mes frères, à mes sœurs, à d'autres personnes qui m'ont permis d'être qui je suis, à qui je dois beaucoup, et dont je ne peux pas supporter l'anéantissement total. Le génocide, parfois par son gigantisme, peut finir par transformer les victimes en données numériques. On sait qu'il y a eu un événement de telle ampleur, qu'il y a eu autant de morts, mais qui étaient-ils? Et si on n'y fait pas gaffe, leur vie pourrait disparaître aussi. Or, comme nous sommes témoins de leur vie, je considère que c'est notre tâche, en tout cas pour ceux qui le peuvent, de les porter sur notre dos, de les faire réexister à travers les œuvres. Et les œuvres sont des choses qui demeurent et j'y reviendrai certainement.
Alors ces dialogues interrompus, hélas, avec votre mère et votre père sont dans ce livre. Nous n'en avons pas révélé la nature. C'est aux auditrices et aux auditeurs d'aller voir par eux-mêmes dans ce texte. Et ils vont avoir sans doute quelques surprises sur le jeune homme que vous avez été d'Orsi Rugamba. Mais je n'en dis pas plus. Je rappelle donc le titre de ce livre, Ewa Rwanda, dont on n'a pas dit encore que ça signifie l'air du Rwanda.
Absolument.
Et je trouve ça très beau de finir sur ce souffle, un souffle poétique, évidemment. Ewa Rwanda, lettres aux absents de D'Orsi Rugamba qui a paru aux éditions Lattès.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Frujon-Toussaint. Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.